peut-être avant de plonger dans le vif du sujet, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Vincent Marie, je suis enseignant en histoire, géographie et en cinéma. On va mettre le micro si vous voulez, on m'entend. Au lycée Philippe Lamour, donc à Nîmes, et je suis docteur en histoire contemporaine de l'université Montpellier III. Mes thèmes de recherche sont la bande dessinée à travers une approche en histoire culturelle. Et ce qui m'amène vers vous aujourd'hui, en fait, c'est le fruit d'un travail élaboré avec l'historial de la Grande Guerre à Péronne autour de deux expositions. Donc ma première intervention traitera de l'œuvre d'un auteur de bande dessinée qui est Jacques Tardy, que vous connaissez hein, sûrement, et qui a été l'objet d'une exposition en 2009 à l'historial. Et dans un deuxième temps, donc l'intervention de la semaine prochaine traitera de la représentation de la Première Guerre mondiale dans la bande dessinée, mais à travers un corpus beaucoup plus large, qui ira de Bécassine, des Pieds Nickelés, jusqu'aux bandes dessinées d'aujourd'hui, y compris Tardy, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres auteurs qui se sont attelés à la tâche et ont traité le sujet en bande dessinée. Voilà. Donc au niveau du son, là, c'est mieux, comme ça. Parfait. Donc le thème de mon intervention aujourd'hui, entre mémoire et histoire, c'est la thématique hein, qui m'avait été donné pour traiter de ce sujet-là, la fabrique d'un imaginaire de la Grande Guerre en bande dessinée, l'étude de l'œuvre de Jacques Tardy. Alors, la Grande Guerre est un thème obsessionnel et lancinant dans l'œuvre de Jacques Tardy. En effet, qu'il s'agisse de bandes dessinées, et j'en cite quelques-unes pêle-mêle, La fleur au fusil, Le trou d'obus, C'était la guerre des tranchées, Va le soldat, ou la dernière en date, Putain de guerre, mais aussi, c'est le cas d'illustration de romans, il faut savoir que Tardy a illustré Céline, par exemple, de sculptures, mais aussi d'un petit théâtre de papier à monter qu'il a réalisé pour accompagner à l'époque la sortie de l'album Trou d'obus. Donc l'œuvre de Tardy, au sens large, hein, pas seulement dans la bande dessinée, explore largement la Première Guerre mondiale. Toutefois, si le père d'Adèle Blansec raconte dans ses albums la vie quotidienne et les angoisses des soldats, mais aussi de leur famille, pris dans les tourments de la Grande Guerre, il n'a pas pour autant la prétention de faire œuvre d'historien. Voici ce qu'il dit d'ailleurs dans le paratexte d'un de ses albums, à mon sens le plus abouti sur le sujet, à savoir c'était la Grande Guerre des tranchées. Je le cite. C'était la guerre des tranchées, mais pas un travail d'historien. Il ne s'agit pas de l'histoire de la Première Guerre mondiale racontée en bande dessinée, mais d'une succession de situations non chronologiques, vécues par des hommes manipulés et embourbés, visiblement pas contents de se trouver là où ils sont, ayant pour seul espoir de vivre une heure de plus, souhaitant par-dessus tout rentrer chez eux. Pour autant, si Tardy effectivement ne se revendique pas lui-même comme historien, il s'est beaucoup informé pour réaliser ses bandes dessinées. En effet, il a lu et vu les grandes œuvres littéraires et cinématographiques sur le sujet, il a effectué des recherches sur les lieux, des recherches sur l'armement, il a plongé dans les correspondances de guerre, ce qui fait que résulte de ce travail-là une œuvre documentée, voire documentaire, où s'incarne à travers des poilus de papier, ce qui n'est pas toujours de l'ordre du visible dans les livres d'histoire. Là, je voudrais citer George Duby Huberman, qui nous dit ceci, et ça s'applique, à mon sens, assez bien à la bande dessinée. La notion même d'image, dans son anthropologie, se confond précisément avec la tentative incessante de montrer ce qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas voir le désir comme tel, mais les peintres ont su jouer de l'incarnant pour le montrer. On ne peut pas voir la mort, mais les sculpteurs ont su modeler l'espace comme une porte de tombeau qui nous regarde. On ne peut pas voir la parole, mais les artistes ont su construire leur figure comme autant de dispositifs énonciatifs. On ne peut pas voir le temps, mais les images créent l'anachronisme qui nous le montre à l'œuvre. On ne peut pas voir le lieu, mais les fables topiques inventées par les artistes nous en montrent bien. Par des moyens tout à la fois sensible et intelligible, la puissance d'évidence. De fait, si Tardy, par cette puissance d'évidence, propose une vision très réaliste de la Grande Guerre, il se confronte au problème de sa représentation. Et le « re » a toute une importance dans ce propos. Comment rendre compte de la Première Guerre mondiale en bande dessinée ? Ce que je vous propose, c'est de suivre l'itinéraire de cet auteur qui n'a pas vécu les événements qu'il représente. Il s'agit de comprendre comment se fabrique une mémoire ressaisie, et j'emprunte l'expression à Pierre Nora, de la Première Guerre mondiale. Et en quoi l'œuvre de Jacques Tardy se manifeste comme une forme privilégiée de l'expression artistique d'un imaginaire culturel de la Grande Guerre qui va rentrer en concurrence avec le discours des historiens. Donner des clés pour comprendre la construction d'un imaginaire national de 14-18 dans la bande dessinée à travers l'œuvre de Tardy est donc la gageure de mon intervention. De fait, et là c'est la posture méthodologique que j'adopterai, l'historien de la bande dessinée se transforme en une sorte d'archéologue du savoir qui a pour objectif non seulement de dévoiler les processus de création de l'auteur, c'est-à-dire les fondements généalogiques des différentes strates qui constituent son imaginaire, mais aussi d'appréhender les différents régimes d'historicité dans lesquels s'intègre la construction mémorielle de ce que je nommerais une mythologie de papier. Alors, pour ce faire, j'ai eu le privilège de rencontrer Jacques Tardy à plusieurs reprises et d'avoir discuté longuement avec lui de son travail et d'avoir eu accès à la plupart de ses sources de référence et de ses planches originales. La première chose qui m'a frappé dans cette rencontre avec Tardy, c'est que, en réfléchissant sur ses sources d'inspiration et sur l'intérêt qu'il avait pour la Grande Guerre, c'est son ancrage dans une histoire familiale. Certes, Tardy n'a pas vécu les événements de la Première Guerre mondiale, et la représentation cauchemardesque qu'il en donne est mise à distance par un imaginaire qu'il a forgé au contact de sa famille, je vais vous le démontrer, mais aussi de sources d'inspiration diverses qui vont instrumentaliser plus ou moins de façon importante son regard. Autrement dit, je m'interroge, comment Tardy est-il devenu le passeur d'une mémoire de 14-18 ? Il est né en 1946 d'un père militaire de carrière et il a très tôt baigné dans des récits de guerre. Ceux de sa grand-mère, dans un premier temps, je dis bien sa grand-mère, qui racontait en fait les épisodes vécus par son grand-père lors de la Première Guerre mondiale. Paul Tardy, ce pépé corse, avait fait verbal. Et je cite Tardy, « Mon grand-père, Paul Tardy, ce pépé corse, venu sur le continent pour la première fois en 1914, s'était tapé toute la Première Guerre mondiale, avait été blessé, gazé et ne parlait pas beaucoup. Toutefois, c'est indirectement que les épisodes vécus par son grand-père vont venir aux oreilles du jeune Jacques. C'est en écoutant effectivement les récits de sa grand-mère qu'il découvre les atroces conditions de vie d'un homme si gentil, c'est son expression, pris dans les tourments de la guerre des tranchées. Et je cite Tardy, par exemple, elle racontait comment mon grand-père, étant de corvée de soupe, ou je ne sais quoi, regagnant sa tranchée, est pris par un tir de barrage. Il y a des fusées éclairantes. Et regardez bien, en fait, vous vous rendez compte que dans l'album c'était la guerre des tranchées, Tardy a médiatisé, en tout cas a mis en scène, cette histoire. Vous avez la première planche qui l'évoque. Donc on voit ces fusées éclairantes. Il plonge sur le sol et tombe dans un cadavre en train de pourrir, les mains dans le ventre du cadavre. Voilà le tir, le soldat qui tombe, que vous voyez donc dans la dernière vignette, les mains plongées dans les intestins d'un cadavre. Depuis cet épisode, dit Tardy, ce pépé corse passait son temps à se laver les mains. C'est d'ailleurs à son grand-père qu'il va dédier cette œuvre, c'était la guerre des tranchées. Vous avez, dès la première page, une dédicace qu'il a faite à son grand-père. Première inscription dans l'histoire familiale, les récits de son grand-père racontés par son grand-mère, par sa grand-mère. Donc là, on voit que dans la transmission, il y a peut-être aussi une perte narrative, en tout cas une perte de réalisme qui pouvait éventuellement s'opérer, puisqu'il y avait un intermédiaire. Autre lien avec une histoire familiale, celle de son grand-oncle, qui avait été blessé par un éclat d'obus, et qui lui avait expliqué comment on avait appliqué sur sa plaie un pansement avec des asticots pour éviter la gangrène. Je vous laisse imaginer, là j'ai pas mis d'image. Je vous ai parlé là-dessus parce que vous verrez tout à l'heure, Tardy et sans concession parfois. Donc ce récit-là a fait complètement cauchemarder le jeune Jacques, et je le cite encore hein, dans les entretiens qu'il m'accordait, « Bon, fatalement, ça me marque. Les asticots, tu les visualises en train de grouiller dans la plaie. En plus, tu vois le trou qu'il a dans l'épaule. Voilà donc ce qui va entraîner mon espèce d'obsession, si j'ose dire, de la guerre de 14-18. Tout simplement d'avoir eu sous les yeux, à la même époque, ce grand-père et cet homme. Toutefois, voilà hein, le grand-père qui se lave les mains. Donc en trois planches, hein, il a raconté cette histoire en trois planches. Toutefois, ça ne s'arrête pas là. Effectivement, je vous ai dit tout à l'heure que son père était militaire de carrière et que certes, les récits qu'il racontait avaient pour cadre la Deuxième Guerre mondiale, mais le dessinateur n'a pas hésité à les utiliser pour nourrir ses intrigues autour de 14-18. Engagé dans un régiment de chars de combat, son père conduisait en fait un char d'assaut, et sa rencontre avec un combattant le ventre ouvert tenant ses viscères dans son casque posé sur ses genoux a été médiatisée par Tardy dans aussi cet album que je vous montrais tout à l'heure, c'était La guerre des tranchées. Dans l'atelier du dessinateur, on va trouver une maquette de char qui a été réalisé par son père, vous avez là sous les yeux, et qui va d'ailleurs largement l'utiliser dans de nombreuses vignettes. On le verra, ce char, représenté notamment dans des albums d'Adèle Blanc-Sec, mais aussi dans C'était la guerre des tranchées. Vous voyez en même temps, ce que Tardy va rechercher à représenter à travers des objets qu'il utilise pour médiatiser un petit peu certains éléments de la Grande Guerre, c'est le souci du détail. On a ici, par exemple, donc la pelle qui est représentée ici. On voit un marteau ici et une pelle qui sont représentées sur le char. L'as de pique, là, bon, il fait quelques petites variantes, mais généralement, c'est assez fini. Donc tous ces souvenirs impliqués dans une histoire familiale racontent les récits des atroces conditions de la vie des soldats. Ils vont nourrir l'imaginaire du futur dessinateur, et le font bien sûr cauchemarder petit. Tardy va donc se faire le relayeur de ces histoires, qui sont plutôt d'ordre affectif, et va devenir le passeur d'une mémoire familiale. Toutefois, pour illustrer l'histoire de son grand-père, de son oncle, et éventuellement, a fortiori, celle de son père, d'ailleurs, pour la petite anecdote, je fais une petite digression, mais pour avoir discuté avec Jacques Tardy, le prochain album qu'il voudrait en tout cas réaliser aurait pour thème la Seconde Guerre mondiale. Il a envie de se frotter au sujet de la Seconde Guerre mondiale et de laisser un petit peu de côté la Première Guerre mondiale et de médiatiser justement l'histoire de son père. Donc Tardy va faire le choix pour médiatiser ses récits de la bande dessinée, de la fiction en bande dessinée. Il apparaît alors légitime à l'historien de s'interroger sur la pertinence du 9e art à traiter sur le mode fictionnel de l'histoire de la Grande Guerre. En ce sens, une recherche sur les rapports de l'auteur à la bande dessinée, mais aussi sur la généalogie des images, permet d'éclairer la démarche et la posture du dessinateur. Récit de guerre, guerre des récits, les enjeux de mémoire. En fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ces premiers travaux, donc il va y avoir une lente maturation jusqu'à la constitution d'une rationalisation mémorielle, j'emprunte l'expression à Sophie Marant, de la Grande Guerre en bande dessinée. Donc dans sa carrière, très tôt, alors qu'il n'est même pas encore connu, hein, de toute façon, Tardy va se confronter au sujet de la Première Guerre mondiale. En effet, le premier récit qu'il réalise sur cette période est une histoire de 6 pages destinée à être publiée dans Pilote au début des années 70. Donc là, j'ai la planche originale et j'ai dû grimper dans les combles avec lui pour aller la rechercher. Je ne voulais surtout pas l'exposer pour l'historien de Perron dans l'exposition qui retraçait son travail, parce qu'il trouvait que le dessin n'était pas abouti et elle ne lui plaisait plus. Cette planche, elle est intéressante, et ces 6 planches ont une histoire qui peut nous intéresser. En effet, elle raconte donc l'histoire d'un soldat embourbé dans les tranchées. Cependant, le jeune dessinateur, qui est talentueux, hein, mais donc encore inconnu, va se heurter au refus de l'équipe d'édition de Pilote. Ils vont refuser de l'éditer dans le magazine, prétextant que ces pages sont trop caricaturales. En fait, la véritable raison est davantage d'ordre politique ou mémoriel. Et je cite Tardy, « Les gens de Pilote pensaient que je me moquais des anciens combattants. » En effet, dans le contexte des années 70, il ne fait pas bon écorner la mémoire des anciens combattants. D'ailleurs, Suzanne Citron, hein, une historienne, signale que jusque dans les années 70, les livres d'histoire présentent une vision uniforme de la guerre. Ainsi, et je la cite, « aussi inimaginable que cela puisse paraître aujourd'hui, l'historiographie des années 60 et 70 demeure celle de la gloire des chefs, de la célébration de la victoire, et fugitivement, une histoire de la boue, de la mort, de la vérité quotidienne des combats, celle qui intéresse ça. D'ailleurs, si Manuel, parce qu'elle a travaillé sur Emmanuel Scolaire, ne font aucune allusion au bilan meurtrier de cette guerre, et se contentent de célébrer dans leur dernier paragraphe les grands chefs, l'héroïsme et le sacrifice des poilus. Contrainte éditoriale, contexte peu favorable, difficulté de créer un scénario sur le sujet, le jeune dessinateur n'évoque dans ses premiers récits la Grande Guerre que de façon périphérique. Ainsi, dans Adieu brin d'avoine, publié chez Dargaud, ou dans la véritable histoire du soldat inconnu publié chez Futuropolis en 1974, la Grande Guerre n'apparaît qu'en toile de fond. Ainsi, échoué sur un navire russe à la fin d'une aventure improbable, Lucien Bras d'Avoine apprend que la guerre vient d'éclater en Europe et se dit pour lui-même, encore une histoire de gros sous, messieurs, cette fois, vous réglerez vos problèmes sans moi. Je descends à la prochaine escale. Donc la guerre ne m'intéresse pas. Quant à la véritable histoire du soldat inconnu, c'est seulement dans les dernières vignettes du récit que Tardy va envisager le conflit. Le scénario de cette histoire est conçu sur le mode du flashback et relate le délire d'un écrivain de romans d'aventure bon marché qui, blessé mortellement sur le champ de bataille, divague et se retrouve confronté à tous les personnages déchus de ses romans. L'histoire se clôt, non sans ironie d'ailleurs, sur son inhumation sous l'Arc de Triomphe. En fait, il faut attendre La fleur au fusil en 1979, c'est la suite d'Adieu brin d'avoine, et Le trou d'obus en 1983, pour que la guerre trouve sous la plume de Tardy une concrétisation formelle significative, introduite par les récits d'un vieux narrateur. C'est en fait en 1993, avec C'était la guerre des tranchées, que l'œuvre de l'auteur, à mon sens, arrive à maturation. Cette période coïncide d'ailleurs avec le déclin relativement rapide du nombre d'anciens combattants, et avec eux d'une certaine mémoire de la Grande Guerre. Le public ressent alors le besoin de comprendre l'événement, Et Tardy peut alors relever le défi de mettre en scène l'expérience combattante de son grand-père, et a fortiori de répondre à la demande sociale. Dans cet album, donc dans C'était la guerre des tranchées, ce n'est plus le héros brun d'avoine, qui devient soldat de 1914, mais ce sont les soldats ordinaires, comme était son grand-père, qui deviennent des protagonistes, là j'ose pas dire héros, d'histoires de guerre. Ces histoires, elles sont non conformes à l'idéologie et l'iconographie héroïque développées pendant et juste après la Première Guerre mondiale, mais loin du Bécassine ou des Pieds-Niquets. Dans des albums donc, comme C'était la guerre des tranchées ou Vers le soldat, Tardy a supprimé les récitatifs. Les protagonistes s'expriment à la première personne, il y a une certaine empathie qui se dessine, et il veut montrer à tout prix la souffrance des soldats. Et pour ça, il choisit le noir et blanc. Par ces procédés, Tardy va chercher à redonner voix et corps à l'expérience de son grand-père et à celle de soldats ordinaires, et ainsi recomposer une mémoire du conflit, même confuse et fragmentaire. Toutefois, il n'arrive pas à répondre à l'interrogation concernant les raisons qui ont pu pousser les hommes à supposer une expérience, à supporter pardon, une expérience si longue et si violente de l'événement. Il faut en effet attendre son dernier album, qui est en deux tomes, donc Putain de guerre, publié d'abord sous la forme de journaux, puis sous la forme d'albums en 2008 et 2009, pour que Tardy confère une dimension plus structurée au conflit. Reprendre la guerre année par année constitue, sous la plume de Tardy avec Putain de guerre, une tentative de rationalisation mémorielle. On peut s'interroger, après ces enjeux de mémoire et le contexte dans lequel sont élaborées ces œuvres, sur ces sources d'inspiration en regard de l'histoire des arts, et se demander si elles ne viennent pas instrumentaliser son imaginaire. Repenser en effet la Grande Guerre chez Tardy se résume à montrer les opérations comme théâtre, les combats comme spectacle et les ruines comme décorum. Cette esthétique originale puise son inspiration aux sources de la littérature. Là, je vous ai montré donc une image de Tardy qui illustre Céline, illustre Voyage au bout de la nuit de Céline, ici. Mais il puise aussi aux sources de la peinture, de la photographie et du cinéma. D'ailleurs, dans cette planche de C'était la guerre des tranchées, Tardy opte plutôt pour le format cinémascope avec des bandes étirées de façon verticale. Et il joue presque des procédés cinématographiques, c'est-à-dire que le sang qui gicle de la tête du soldat sur la vignette du milieu donne comme un effet de ralenti cinématographique. Tardy puise beaucoup d'images dans un film qu'il a énormément inspiré, mais dont il ne revendique pas toujours la parenté, Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. Là, vous avez la mise en scène, un photogramme du film, et puis une des vignettes de l'œuvre de C'était la guerre des tranchées. Autre source cinématographique, donc un album dont je vous parlais tout à l'heure, qu'il a réalisé, scénarisé par Dan Inks, qui s'appelle Varlo Soldat. Clin d'œil est visible de par le titre, et je vous ai mis quelques petites images de Charlot Soldat. Effectivement, hein, Tardy a une cinémathèque impressionnante et il va puiser largement dans les sources cinématographiques. Sources qui sont reconstruites d'ailleurs, hein, ce ne sont pas des sources historiques, au sens classique du terme. Il va aussi s'inspirer d'un nombre d'œuvres incalculables comme des références à Otto Dix, à Gus Boffa, à d'autres réalisateurs comme Léon Poirier, et va partir parfois en quête d'une expression, d'un paysage, d'une attitude, pour tenter de mieux faire percevoir ce que fut cette guerre. Et souvent d'ailleurs, ce qu'il me disait, c'est que ce n'est pas tant le soldat au premier plan qui l'intéresse, mais davantage un personnage désaxé sur une photographie par rapport au cadre, dont le regard est complètement perdu, complètement halluciné. Donc au fil des planches se construit alors une narration qui va osciller entre des moments de pause correspondant à des mises en tableau, des arrêts photographiques issus des sources d'inspiration de Tardi, et une accélération du récit, répondant le temps de quelques planches à une vision plus dynamique du danger lors d'assauts violents et sanglants. Notamment là, on sent nettement les sources d'inspiration cinématographique. La scène d'assaut de Kubrick a été reprise pratiquement telle qu'elle quand c'était la guerre des tranchées. D'ailleurs, on retrouve dans la bibliographie qu'il propose à la fin de ses albums une liste d'œuvres, et je cite pêle-mêle à la fois des romanciers, alors Le Feu de Barbuse, Les Croix de Bois de Dorgelès, À l'Ouest, Rien de Nouveau de Remarque, La Peur de Chevalier, qui vont déteindre sur son travail. Mais aussi Giono, Céline. Et Autodix. Alors, effectivement, là vous avez une eau forte d'Autodix qui est exposée d'ailleurs à l'Historial de Pérol, que Tardi a utilisé pour représenter une des vignettes de Putain de guerre. Alors, je vous demande de regarder juste le pied du soldat près du fusil. En fait, le pied est déchaussé. C'est un soldat suicidé qui s'est tiré une balle dans la tête. Mais pour tirer cette balle, le fusil était tellement long qu'il ne pouvait pas atteindre la détente avec sa main. Donc, il se déchaussait pour pouvoir tirer. Et dans cette vignette de Putain de guerre, Tardi a justement eu le souci de ce détail-là et a pris soin de déchausser son soldat. Autre image que l'on retrouve dans Putain de guerre, le No Man's Land dévasté par des trous d'obus, qui rappelle étrangement aussi une des eaux fortes d'Autodix, où on voit ces cratères largement représentés. Ce qui intéresse effectivement Tardi, c'est de montrer la souffrance des soldats. Il n'hésite pas à les faire crier, à les représenter la bouche ouverte. Voilà encore une forte d'Autodix, qui pourrait être assimilée à ce réalisme de la souffrance dans les dessins de Tardi. Donc il y a des sources littéraires, il y a des sources cinématographiques, il y a des sources iconographiques, mais il y a aussi des sources personnelles, et c'est ça qui est amusant dans la construction de son imaginaire. Voilà, alors, Tardi prenait un malin plaisir, alors c'était l'époque des Polaroids, dans les années 70-80, à photographier tous ses amis qui passaient chez lui, dans son atelier, avec un casque de poilu sur la tête, de face et de profil. Alors, parmi ces personnages qui sont photographiés, alors là je ne sais pas si on voit, mais il va y avoir Enki Bilal qui sera photographié. Il y a Jean-Pierre Vernet qui est photographié, qui est son fidèle collaborateur, on y reviendra. Et il a des membres de sa famille, des amis, etc. Et finalement, ces sources-là vont être très utiles pour Tardi parce qu'une des grandes difficultés, m'expliquait-il, était de dessiner des tronches de soldats différentes. Voici quelques exemples de tronches dans C'était la guerre des tranchées, qui sont inspirées bien sûr de ces polars. Ce qui est caractéristique et ce qui est très intéressant dans l'œuvre de Tardi, c'est qu'il a un souci de témoigner à partir cette fois d'une solide documentation historique. Donc dans cette perspective, on peut se poser la question si son œuvre est un témoignage engagé sur la Grande Guerre, ou une œuvre de fiction documentaire constitutive d'une histoire des représentations. Pour recréer cette atmosphère de 14-18, Tardi va entamer une collaboration amicale et de longue date avec Jean-Pierre Vernet. Jean-Pierre Vernet, qui est un collectionneur, qui va ouvrir d'ailleurs très prochainement un grand musée de la Première Guerre mondiale à Meaux. Il a une collection mais impressionnante d'objets en tout genre. Et en fait, pour la petite anecdote, leur rencontre s'est opérée à partir d'un échange de courriers. Tardi venait de publier les premières planches de C'était la guerre des tranchées dans la revue à suivre. Et il a reçu une lettre de Jean-Pierre Vernet lui disant, voilà, j'ai repéré quelques petites erreurs, notamment concernant les boutons des uniformes des soldats. Voilà, c'est vraiment des détails pointus. Et Tardy a pris peur au départ. Hein. Il s'est dit, oulala, je suis tombé sur un fétichiste maniaque, le souci du détail, moi, ça m'intéresse peut-être pas tant que ça. Et puis finalement, de fil en aiguille, ils ont décidé de collaborer. Et Jean-Pierre Vernet est devenu un des principaux conseillers, mais aussi une des principales sources documentaires, finalement, de Tardy. Il faut savoir que dans l'atelier de Jacques Tardy, vous avez un mannequin en permanence, avec tout l'uniforme du poilu de 14-18, le casque qui est là. Et puis, dès qu'il a un souci pour représenter tel ou tel objet, coup de téléphone à Jean-Pierre Vernet, voilà, Jean-Pierre, est-ce que tu peux m'amener tel besace, ce qu'il y a dans le barda d'un poilu, j'ai besoin de savoir exactement... pour l'uniforme anglais, comment ça se présente, pas de problème, dit Jean-Pierre, il a touché lui, hein. Donc au grand dam de sa femme d'ailleurs, parce que la maison commence à rétrécir, mais heureusement que le mot s'ouvre d'ailleurs, mais il lui apporte tout ce qu'il faut, même l'armement, etc. Donc ils vont essayer ensemble de mettre en place une utilisation raisonnée de la documentation historique, c'est-à-dire les lettres et les carnets de guerre, les témoignages, les objets, les uniformes, l'armement, les photographies. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Vernet me disait que lorsque Tardy travaille dans son atelier, je le vois souvent un casque à la main. Il dessine souvent un casque à la main, car c'est ce qui est le plus difficile en fait à dessiner, d'après Tardy. Chaque objet en fait parle et favorise une incursion pour Tardy dans le détail, dans l'intimité des soldats, mais aussi dans leur quotidien, que ce soit à l'arrière ou au front. Son objectif, par ce souci documentaire, est d'aller au plus près de la guerre, quitte à accentuer un petit peu cette coloration historique réaliste du conflit. Je cite Tardy, « J'attache beaucoup d'importance aux détails parce qu'ils m'aident à raconter la grande histoire. Pour dessiner une scène, j'ai besoin d'y croire, de la ressentir. En attaquant le décor d'une tranchée, j'avais l'impression d'avoir fait partie de l'équipe qui avait posé les bois servant à tailler les parois. » Donc voilà, Tardy a vraiment un sens du détail très pointu. Alors, des petits clins d'œil que je vous mets pour l'illustration et pour l'anecdote. Donc voilà, petite lettre que Tardy a destinée à Jean-Pierre Vernet. Le petit timbre en poilu, Vernet ramène les enfants, deuxième classe, forcément. Jean-Pierre, il va y avoir plein de conneries. Voilà donc les quatre planches, donc il dessinait les planches et il lui demandait de vérifier, en tout cas, les ébauches de planches, de vérifier s'il n'y avait pas d'erreur historique, enfin, en tout cas, dans le détail. D'ailleurs, le clin d'œil va un peu plus loin. Vous avez tous remarqué, dans la planche, vous avez Société Vernet, hein, au milieu de articles en tout genre. L'utilisation donc, de ce souci, de cette obsession du détail, de ces sources documentaires, va jusque dans la reproduction presque quasiment à l'identique de certaines photographies. Vous avez ici un soldat qui a été blessé, allongé dans un lit d'hôpital, un lit de fortune. Voilà le personnage dans la planche. Vous remarquez ici qu'à l'arrière-plan de l'image, il n'y a rien. Tardy l'a mis au premier plan de son image, et finalement s'est servi d'une deuxième image, d'une deuxième photographie de gueule cassée, notamment, pour illustrer l'arrière-plan de sa vignette. De même, vous avez ici une photographie de l'Imperial War Museum, qui est reprise, pratiquement telle qu'elle, dans une des vignettes de C'était la guerre des tranchées. Alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir, j'ai eu cette chance, Tardy au travail. Et vous avez ici, donc, les différentes étapes de son travail, de la case blanche jusqu'à la mise en couleur. Alors, c'est une vignette un petit peu exceptionnelle, parce que vous voyez bien que pour... donc, il y a un crayonné, et il y a des choses qui se font de plus en plus précises, que pour réaliser cette vignette-là, il a utilisé 6 sources documentaires. Ce n'est pas toujours le cas. Et là, c'est vraiment assez remarquable pour le signaler. Jusque dans l'appel que vous voyez au premier plan. Les chars à l'arrière-plan, détail hein, pour un lecteur qui passe vite sur l'image, qui glisse sur l'image, Matardi va avoir vraiment en visu un char qui se contextualise dans cette guerre, dans le contexte de la guerre qu'il représente ici. Cette obsession du détail va le pousser même jusqu'à utiliser des codes linguistiques, à savoir l'argot des tranchées, pour authentifier son propos. Il n'hésite pas à faire parler ses soldats en prenant des expressions de l'époque. Pour désigner le fusil, il va parler de nougat, par exemple. Dans cette perspective, il semble intéressant de voir comment les micro-histoires qu'il va mettre en scène, pour Tardy, il ne s'agit pas de tactique, de stratégie, mais plutôt de relever un camarade aux avant-postes, de participer à un assaut, d'apporter, on l'a vu pour l'histoire de son grand-père, de la soupe à un régiment, qui vont s'intégrer dans le contexte spatio-temporel de la Grande Guerre. Et ce contexte, il va être visible à la fois graphiquement, mais aussi on pourra le signaler à travers la linguistique et notamment le vocabulaire qu'il utilise. Donc Tardy va marier finalement l'histoire familiale, l'histoire nationale de façon relativement efficace, jusqu'à même, et là ce qui est intéressant, son obsession du détail va très loin, se représenter lui-même. Alors, il y a deux petites anecdotes sur ces images. Donc là, sur ce personnage qui coupe les barbelés, vous avez Tardy qui s'est représenté lui-même, mais en fait, c'était pas tellement ça l'intérêt. Pour lui, il fallait absolument qu'il comprenne comment se positionner les mains sur cette pince coupante. Donc il a fallu qu'il se fasse, voilà, qu'il prenne une photo avec les mains sur la pince coupante. Pour voir, voilà, c'est cette position. D'ailleurs, le souci du détail, on ne voit pas très bien, je pense, ici, mais vous avez un symbole sur le casque de la photographie de Tardy, qui est un symbole d'artillerie. Et Tardy a pris soin, justement, de bien différencier le casque qu'il a représenté en mettant le symbole de l'infanterie. D'ailleurs, vous remarquez que son souci du détail va même encore plus loin, c'est-à-dire qu'il est tellement avide de dessin, de précision, qu'il va d'abord dessiner la vignette avant de mettre le texte. Ce qui veut dire que parfois, le texte va rentrer en concurrence avec le dessin. Donc là, il avait deux solutions pour mettre le texte. Soit il mettait dans le coin gauche de l'image, mais du coup il perdait un petit peu du dessin, soit en bas à droite. En l'occurrence, il a opté pour le coin gauche. Pour le dessinateur, il est hors de question d'équiper ses poilus de Kalachnikov ou de dessiner des Mirage 4 dans le ciel de Verdun. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il me disait ceci quand je lui parlais de d'autres auteurs qui ont traité du sujet de 14-18 en bande dessinée. Qu'est-ce que vous pensez, Jacques Tardy, des nouveaux auteurs qui traitent du sujet? Par exemple, on a discuté autour d'un album de Adam et Marchetti qui s'appelle La Tranchée. Tardy avait lu cet album, mais pas intégralement. Il m'a dit, en fait, c'est pour montrer hein, que ça l'observe vraiment, qu'au milieu d'une histoire, c'est une histoire d'enquête policière. Hein. Il y a un meurtre dans les tranchées, il y a un soldat qui se fait tuer par une baïonnette, dans le dos. Et en fait, la baïonnette qui est représentée est une baïonnette anglaise. Et ça se passe dans la tranchée française, et c'était pas cohérent pour Tardy, donc ça l'a bloqué dans sa lecture. Il m'a dit, j'ai pas pu continuer la lecture. J'ai été bloqué par ce détail. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Après, vous prenez la distance par rapport à ça. Ce qu'il cherche, effectivement, c'est à sensibiliser son lecteur. Donc, il va préconiser plutôt une approche sensible de la guerre. Donc, au prisme du pauvre type, hein, c'est ce qui l'intéresse, il va privilégier une guerre vécue ou le choix de la micro-histoire. En effet, Tardy va médiatiser dans ses albums l'histoire de soldats anonymes, pris dans les tourments de la guerre, pris dans la quotidienneté de la guerre. Là, vous avez par exemple une petite médiatisation de l'artisanat de tranchées. Donc toutes ces petits moments au quotidien, ces pipes qu'on allume, ces clopes aussi, ces obus qu'on sculpte, etc., ça va intéresser pas mal. Au front, bien sûr, mais aussi à l'arrière. Là, vous avez un montage parallèle. En fait, les deux personnages, d'ailleurs, il y a une ironie tragique dans cette scène, c'est que le mari, le soldat Bouvreuil, c'est l'histoire de couple Bouvreuil, le mari sculpte des obus dans les tranchées, et la femme, qui est à l'arrière, qui suit une correspondance avec son mari, eh ben, travaille dans une usine d'armement. Dans cette perspective, Tardy va essayer d'utiliser toutes les potentialités du médium bande dessinée pour faire percevoir cette guerre à son lecteur, le sensibiliser à travers une guerre au plus près du soldat. En effet, Tardy va dessiner des silhouettes de personnages voûtés, écrasés par le barda et le poids de la guerre qu'elles portent sur leurs épaules. Il fait bien attention à ça d'ailleurs. Et je le cite, il disait « Le soldat que je dessine est tel que je l'imagine. » C'est mon poilu à moi. « Je me souviens d'un spectacle où les comédiens, habillés en poilu, avaient tout leur harnachement arrivé sur scène bien droit, à l'ancienne, presque comique troupier, pour déclamer leur truc. Mais ça ne collait pas du tout. Le soldat est écrasé par le bordel qu'il porte sur le dos. Il a des pompes boueuses qui l'aspirent, le font adhérer au sol, et ça implique une silhouette plutôt courbée. Il suffit d'avoir soulevé un fusil une fois dans sa vie pour se rendre compte du poids auquel on ajoute la vingtaine de kilos contenus dans le sac à dos. Et il l'a sous-pesé lui-même. L'attitude ne peut donc être celle qu'avaient les comédiens en question. Le personnage est cassé, accablé, fourbu. Enfin, c'est ma vie. Ce parti pris graphique hein, nourrit effectivement son approche sensible de la guerre. À tel point que Tardy va mobiliser les cinq sens dans ses planches. La guerre, puis la merde, dit-il. Et les cadavres qui pourrissent. Le bruit des obus rend sourd aux cris des soldats ou aux râles des blessés. L'agneau, le tabac, l'artisanat, l'écriture sont autant d'activités qui vont rompre la monotonie d'un univers en noir et blanc, où les couleurs vont se diluer dans putain de guerre, pour tendre vers des tonalités monochromes et où la ligne d'horizon demeure inexistante. Alors, quelques exemples de ce que je viens de dire. Sur l'aspect visuel, dans Putain de guerre, ce qui est très significatif, c'est que l'album commence en 14 et se termine en 19. Il commence en couleur. Et puis au fur et à mesure que les soldats vont s'embourber dans la guerre des tranchées, ben, l'album va perdre de ses tonalités. Vous voyez, on tombe dans la tonalité de cri. Donc on part de 14 en couleur, plus on s'enlise, plus les couleurs disparaissent. Aspect sonore, comme on l'évoquait en bande dessinée, vous voyez ce soldat-là qui se bouche les oreilles avec le canon qui est dessiné à l'arrière-plan. Je vous parlais de la silhouette, hein, de toucher la silhouette un peu courbée avec le barda sur le dos du poilu, voilà, avec le fusil sur le bras. L'odeur, finalement, l'odeur perceptible avec la vue à travers les gaz. Et du coup, le choix graphiquement de présenter une vignette ici un peu floutée. Les odeurs et finalement les soldats qui vomissent, les intestins, la scène de l'abattoir, hein, Tardy est très intéressé par tout ce qui est monstration de la boucherie 14-18 et ne va pas hésiter à montrer, vous l'avez vu déjà, hein, des intestins, des entrailles, etc. Autre élément important pour comprendre la construction de son imaginaire, c'est que l'œuvre de Tardy s'inscrit dans une historiographie très marquée. En effet, chez Tardi, il n'y a pas de héros, mais des soldats victimes d'une guerre privée de son sens. Alors, la notion de consentement au sacrifice est parfaitement inaudible chez Tardi. De ce point de vue, l'absurdité des offensives et contre-offensives ordonnées par des généraux bornés et incompétents provoque découragement et interrogation sur le sens même d'une dévotion patriotique. Au fil des planches, le refus de la guerre se manifeste comme un véritable leitmotiv chez Tardi. Le poilu déserte, se mutile ou se suicide. D'ailleurs, un historien, Nicolas Funstadt, note au sujet de Tardi, je le cite, « On remarquera dans sa bibliographie un bon nombre d'œuvres centrées sur le fusil. Ils sont en surnombre par rapport à ce que serait une bibliographie moyenne, si on peut dire, sur la Grande Guerre. » C'est-à-dire que Tardi va se positionner pour un parti pris très particulier. Toutefois, si les mutineries collectives m'intéressent, elles ne sont pas représentées en tant que telles. L'auteur préfère, en effet, s'apesantir sur les conséquences de ces mutineries, à savoir les conseils de guerre, les exécutions et les fusillés pour l'exemple. De même, si les fraternisations chez Tardi sont bien réelles, elles demeurent individuelles et très vite illusoires, voire impossibles, mis à part dans la mise en scène de la mort. Pour Tardi, s'il y a consentement à la guerre de la part des soldats lors de la mobilisation en août 1914, passé quelques mois, il ne peut plus s'agir que d'un consentement par la contrainte imposée par une hiérarchie oppressive. Dans l'entretien qu'il a accordé à Luc Révillon, en 2008, il évoque la question du consentement en prenant position dans le débat historiographique français relatif à la Grande Guerre. Il dit ceci Tardi, « Je trouve scandaleuse cette idée d'un sacrifice librement consenti. » Cette approche, justement, de la monstration de la souffrance et de ce sacrifice librement consenti est particulièrement révélatrice dans le projet de planche que je vous montre ici, et la planche définitive qui ouvre son album « Vers le soldat », prolongement de l'album « Der Dédère » consacré donc à la même période. La date, avril 1917, renvoie à l'offensive du chemin des dames, symbole de la soif de sang et de l'incompétence de la hiérarchie politique et militaire, épisode qui fut d'ailleurs à l'origine des mutinons. De jeunes combattants, ils ont à peine 20 ans, sont frappés et détruits par une artillerie qu'ils sont impuissants à combattre. Ils ne sont pas perçus comme des héros, ni même comme des acteurs. Ils ne tuent pas, mais sont tués. Eux qui étaient auparavant perçus comme se sacrifiant pour leur patrie, ces idéaux, les voici désormais sacrifiés par, pêle-mêle, les officiers, les politiques, les marchands de canons, les églises. Avec une grande économie de moyens textuels et visuels, Tardi s'autorise un glissement sémantique dans lequel, ici, les soldats vont perdre le statut de héros pour n'être plus que les victimes d'une guerre privée de son sens. Ainsi, contrairement au récit de la tradition épique, le corps des guerriers n'est plus magnifié ni glorifié. Les hommes sont brisés, les décors boueux, les combats sordides et brutaux, les corps en décomposition. De ce fait, l'œuvre de Tardi prend très clairement position à l'encontre des mensonges des journaux et des gouvernements de l'époque, dit-il, et construit un discours instrumentalisé sur la guerre. Alors, projet de planche en 3 vignettes, qui finalement sera réduit dans la version finale en 2 vignettes. Vous voyez le texte, je me souviendrai toujours du 27 avril 1917, et pas seulement parce que c'était le jour de mes 20 ans. Voilà, le positionnement de Tardi est clair, l'artillerie qui déchiquette les soldats. On le revoit, ce positionnement aussi, dans une autre planche. Là, c'est son projet de planche pour le dernier album qu'il a réalisé, donc Putain de guerre, où on voit donc le général Duvel dans la dernière vignette, avec, le message est clair, hein, un amas de squelettes, d'os, et puis le terme récurrent qui revient d'ailleurs dans les deux premières vignettes, boucherie, dans l'exclamation. Des soldats défigurés, des soldats traumatisés, complètement hallucinés par cette guerre. Pour autant, donc voilà hein, son positionnement historiographique. On montre, non pas les mutineries en tant que telles, mais plutôt les conséquences de ces mutineries, à savoir les fusillés pour l'exemple. Et là, j'ai une petite anecdote intéressante. En termes techniques, selon Tardy, alors moi je n'ai pas vérifié, je ne suis pas un spécialiste de 14-18, mais d'après Tardy et Jean-Pierre Vernet, on ne fusillait jamais au même endroit les mutins. Donc c'était impossible qu'il puisse y avoir sur le mur des impacts de balles. Seulement ici, d'un point de vue visuel, c'est très signifiant pour le lecteur. Ça veut dire que là, implicitement, on sait ce qui va se passer. Quoi. Donc, déjà, il y a les poteaux, mais en plus, donc, on a ces impacts de balles qui sont présents là, de manière un petit peu grisonnée, qui voilà, indiquent le sort du soldat. Il a même illustré, d'ailleurs, hein, des ouvrages concernant les fusils, pour l'exemple. Pour autant, et là, si je me positionne en tant qu'historien, les expériences des soldats sont difficilement généralisables et ne peuvent se comprendre simplement en termes de consentement ou de contrainte. Les perceptions de la guerre étaient fluctuantes d'un individu à l'autre et ont varié pour chaque individu au cours du conflit. Or, dans Putain de guerre, par exemple, Tardy relègue au second plan la diversité des expériences. En effet, l'album est centré sur un soldat unique, un ouvrier tourneur, que le lecteur va suivre de 1914 à 1918. Donc l'auteur impose finalement une vision stéréotypée et orientée de l'histoire de l'homme. Il y a en effet une mise à distance idéologique dans l'œuvre de Tardy au service d'une mémoire ressaisie de 14-18. Voilà. Alors ça, c'est emblématique de son travail. Merde à l'armée, merde à la France, merde au pont, merde au curé, merde au flic. Et non. En fait, dans ses œuvres, Tardy va privilégier un discours pacifiste, radical, incompatible avec un discours patriotique et guerrier. Le dessinateur ne va pas hésiter à brocarder l'ensemble tragique que constitue la mémoire de la Grande Guerre, c'est-à-dire son unité de temps, le 11 novembre, de lieu, le monument aux morts commémoratif, et d'action, la cérémonie commémorative. En ce sens, et vous allez le comprendre tout de suite, il va détourner un certain nombre de symboles, drapeau tricolore, monument aux morts, tombe du soldat inconnu, médailles. Il les détourne de leur fonction patriotique et glorieuse pour les faire devenir de puissants objets de sarcasme ou de dénégation. Là, vous avez, par exemple, un projet, je vous évoquais Tardy sculpteur en introduction, un projet syncal pour une statue qu'il a réalisée, une statue d'ancien combattant, voilà, de monument aux morts, selon Tardy. Vous parlez du drapeau français. Regardez, le mot fin, le mur rouge, le soldat bleu, le fond rouge, le cercle blanc. Je crois que ça se passe de commentaires. Alors là, celle-là, elle est magnifique, et il y aura une petite anecdote là-dessus. Voilà, un soldat pris dans les barbelés, vous voyez, hein, Tardy, c'est sans concession, je vous le disais tout à l'heure, les intestins à l'air, et le sang qui dessine une carte de France. La bulle qui indique vivement l'armistice. Au soldat. Pour l'anecdote, quand on a travaillé avec l'historial de Perron à l'exposition consacré à Tardy, Tardy voulait comme affiche cette vignette-là. Le directeur de l'historial dit c'est un peu fort. Donc finalement, je vais essayer de la retrouver, on a opté pour ce personnage-là qu'on a détouré, le personnage que vous voyez dans la vignette du milieu, voilà, sur un fond avec marqué table. Voilà, ce qui est, on va dire, plus simple. Mais en même temps, ce n'était pas forcément idiot parce que ça ça révèle bien l'œuvre tardienne, hein, cette image. Mais bon, l'historien avait pour mission aussi d'attirer un jeune public à cette exposition. Et là, c'est un petit peu, voilà, un double tranchant. Hein. Donc, transparaît aussi parfois dans les planches, et vous l'avez vu chez Tardy, les marques d'un anticléricalisme qui est virulent. Tardy réfute le dogme de la résurrection et la religion n'est jamais perçue comme un soulagement à la misère du combattant. Tardy est un militant, il a d'ailleurs un militant orienté politiquement à gauche, il se déclare parfois anarchiste. Il a, vous le savez peut-être, réalisé une œuvre autour de la Commune. Dernièrement, il a illustré un livret accompagnant les CD de chant de sa compagne Dominique Grange, intitulé Des lendemains qui saignent, et où les chansons qui sont répertoriées vont de la butte rouge à des chansons de ce type-là. Donc ça montre bien l'engagement idéologique. Et forcément, ça transparaît dans l'œuvre tardienne. Donc il ne faut pas perdre de vue que les œuvres de Tardy sur 14-18 sont des documents ancrés dans leur temps, et à ce titre ne sont pas seulement le reflet pur et simple d'une période, mais elles expriment aussi en premier lieu les idées et les catégories mentales de son auteur, de ses sources d'inspiration et des agents culturels de l'époque dans laquelle elles ont été conçues et éditées, dans l'épilogue tout à l'heure. Ainsi, chez Tardy, l'aventure 14-18 véhicule de façon plus ou moins consciente une vision de la guerre qui tire sa force d'un courant protestataire et antimilitariste, mais aussi historiographique. Instrumentalisé et nourri par des sources cinématographiques, littéraires, picturales, d'inspiration pacifiste, je pense à Autodix notamment, et par une histoire familiale traumatisante, Tardy veut dénoncer la propagande et honteuse de la presse, le bourrage de crâne, la censure, qui selon lui ont abusé l'opinion publique de l'époque. En résumé, Tardy ne fait pas la guerre aux Boches, comme c'était le cas dans les illustrés d'époque, à savoir les cassines, les pieds niqués, mais la guerre à la guerre. Putain de guerre. Et d'ailleurs, c'est le titre de son dernier album. Donc pour conclure, aujourd'hui, par sa puissance d'évidence, son aspect documentaire et sa virtuosité graphique, Jacques Tardy, auteur majeur du 9e art, imprègne l'univers mémoriel de la Grande Guerre, au même titre que Jean Rouault pour le roman ou Bertrand Tavernier par exemple pour le cinéma. Son œuvre sur 14-18 reflète tout autant l'univers mental d'un auteur que les aspects culturels des époques où elle a été conçue. Ainsi, décrypter les différentes strates mémorielles présentes dans les œuvres de Tardy permet de comprendre comment se fabrique, à la fois au sens artisanal, mais aussi à la fois en termes d'histoire de représentation, une mémoire ressaisie de la Grande Guerre à travers les voies d'un témoignage indirect de troisième génération et de distinguer les différents filtres sensoriels utilisés de façon plus ou moins consciente pour élaborer un objet de médiation culturelle. De ce fait, l'histoire illustrée à travers le médium BD participe pleinement à l'élaboration d'une mémoire collective plus ou moins stéréotypée du conflit. Aux grandes dames des historiens, elle vient en concurrence avec le discours des historiens, puisque vous savez qu'un album de Tardy est tiré à plusieurs milliers d'exemplaires. Avec Tardy, donc le 9e art permet de redonner chair à la Grande Guerre, celle de son grand-père. Il ressuscite des personnages de papier tout en modulant la représentation qui en est donnée grâce à la formidable liberté créatrice du genre et au talent du dessinateur. Et je voudrais terminer par cette image qui là aussi est le reflet du travail Tardy. C'est un tableau. Hein. Ici, il s'agit d'un tableau, d'une peinture qui a été réalisée pour le galériste Desbois, qui était exposé, c'était la première œuvre quand on rentrait dans les salles d'exposition de l'Historial, qui présentait en fait cette exposition. En fait, ce qui intéresse Tardy, finalement, ce ne sont pas cette guerre héroïque, avec ses casques étincelants, ses médailles au premier plan. Non, ce qui intéresse Tardy, c'est la guerre vécue dans sa chair. Regardez ce personnage au second plan, cette gueule cassée. Et pour ça, il nous invite à franchir la fenêtre, aller dans ce No Man's Land avec lui, sous un ciel rouge sang, avec, je vous parlais du détournement des symboles patriotiques, un drapeau français qui pend ici, mais criblé de barres. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut jouer au des questions-réponses. Je suis tout à fait disposé à discuter avec vous. Oui.
Oui. C'est vrai que Tardy fait entrer la guerre de 14 dans le deuxième art. Mais qu'il s'inscrit quand même dans l'historiographie et dans la production de romans déjà dans l'entre-deux-guerres. Il s'inspire par exemple de La peur de Gabriel Chevalier, qui montre le cynisme de ce qui se passe à l'arrière, et la façon dont déjà le poilu se ressent comme le différent. Un des premiers historiens, par contre, à traiter l'historiographie de la guerre de 14 de cette façon moderne, c'est-à-dire dans les années 60. Avant les années 60, les historiens passent à côté, c'est vrai. Il faut attendre les romanciers, et ensuite Tardy fait partie, et donc le premier à dessiner cette guerre de 14. Mais quand on pense à Marc Ferraud, et quand il parle de 14-18, il montre exactement ce que va utiliser Tardy. Même que Tardy s'inscrit tout à fait dans l'expressionniste allemand, dans les Gross, etc. Et on le voit tout à fait dans les dessins. Donc, je pense qu'il faut bien montrer, on pourrait peut-être montrer Tardy comme l'héritier d'une pensée contestataire née après la guerre de 14-18, alors des romanciers, des peintres, et que par contre, ça nous permet de montrer le retard des historiens qui en France, et ailleurs aussi, mais surtout en France, montrent leur retard d'historiographie jusque dans les années 60. Jusque dans les années 60 seulement. Et Tardy arrive là et réfléchit sur cette guerre de 14 avec son bagage et ce qu'il est culturellement et son positionnement, mais il reprend tout à fait les travaux des historiens des années 60 et qui sont fondamentaux, qui nous dessinent une nouvelle guerre de 14-18, la façon dont on l'enseigne désormais aux élèves. Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette réflexion ou pas.
J'ai montré dans la première partie, effectivement, toute cette
En plus, quand j'étais absent la première partie, je suis vraiment désolé.
Je peux vous montrer les images, c'est bien, mais ce que vous avez parlé de Clapper, de Chevalier, tout ça, j'ai expliqué. Hein. Autodix, c'est vraiment ancré, effectivement, dans un discours antimilitariste de l'après-guerre, et Tardy fait le relais de ce discours-là. Et d'ailleurs, alors, ce qui est intéressant, c'est que les premières démarches qu'il va avoir, il va se tourner vers des sources plutôt iconographiques, littéraires, non historiennes, stricto sensu.
Parce qu'il était en retard, l'histoire.
Voilà. Mais après, ça va venir très tardivement, hein, cette question du débat historiographique, c'est tardi, parce que son ancrage familial est tellement fort que finalement, c'est ce qui va prendre le dessus. Et ce qui m'intéresse, c'est ce que je disais, hein, parfois une posture, une attitude sur une image, un élément de récit dans un roman. Qui n'est pas forcément à même de donner les historiens. En fait. Après, il faut savoir que Tardy s'est fâché vraiment très fort avec certains historiens, notamment avec Alain Becker, par exemple, ou des historiens issus de l'école de Péronne. Parce que, effectivement, on voit bien que là, une œuvre populaire comme celle de Tardy construit une image inscrite dans tout ce que vous avez dit, hein, je suis tout à fait d'accord, dans une image reconstruite. Avec des sources plus ou moins instrumentalisées, en tout cas recontextualisées aussi. Et donc, forcément, au final, un petit peu stéréotypé de la grande guerre. Et donc, parfois en décalage avec les analyses plus critiques, distanciées des historiens. Donc, ça pose problème aux historiens.
Cependant, il s'inscrit tout à fait dans la nouvelle façon de voir la guerre 14-18 qui a été décrite par Marc Ferraud il y a 30 ou 40 ans. Et ça, et de fait, c'est. Quand Marc Ferraud dit « les poilus s'appelaient entre eux les PCDF, les profonds du front », c'est exactement ce que dit Tardy. Et donc là, par rapport à cette historiographie qui a été mise au point environ il y a une quarantaine d'années, l'historiographie n'a pas avancé depuis, peut-être même, c'est un petit peu affaibli.
Pour l'historiographie française.
Pour l'historiographie française.
Oui, parce qu'il y a une cristallisation sur ce débat qu'on s'en rend compte. Après,
pour l'historiographie française.
Ouais, pour l'historiographie française. Après, si on prend des militaires ou d'autres historiographies anglo-saxonnes ou allemandes, les débats ne sont pas du tout sur le même type de sujet.
Oui, tout à fait. Ils sont axés sur quoi, les débats dans l'historiographie allemande ou anglo-saxonne?
Ils sont plus sur une histoire comparée, par exemple des soldats. Pour voir un petit peu que finalement le soldat européen, qu'il soit allemand ou français, quelles étaient ses conditions, comment ça s'est passé dans les deux camps. Joe Winter, lui, est plutôt centré sur l'histoire des représentations, qui peut essayer de comprendre les cultures de guerre, mais dans le sens plutôt voilà, quel imaginaire a nourri les soldats, les. Après, là, on rentre dans des choses compliquées. Moi, je suis voilà, pas dans cette querelle de clocher, mais c'est des histoires aussi de diffusion des travaux. Il y a l'historien de Perron qui a voilà, une visibilité assez importante. Les historiens qui sont plutôt dits de crowd, qui, eux, ont moins de visibilité. Certains historiens, les historiens de Perron qui ont longtemps la main mise sur les manuels scolaires, donc sur une certaine forme de l'enseignement de la Grande Guerre, au détriment d'autres historiens, et donc il y a eu des colloques ou des débats vraiment très très houleux, et qui fait que finalement on est resté sur une tension, une cristallisation intellectuelle là-dessus, et qu'on a du mal à aller au-delà. Moi, à mon sens, c'est... Voilà, c'est bon, ça bouge un petit peu, hein. Ils ne sont pas non plus complètement bordés, les historiens, mais voilà, ça évolue. Il y a aussi d'autres personnes qui renouvellent un petit peu l'historiographie, qui vont... Mais voilà. Il faut dire aussi ce que je disais tout à l'heure, que l'appropriation de enfin, l'histoire de 14-18 n'appartient à personne finalement, ni aux historiens, ni à Tardy, ni à. Voilà, où elle appartient à tout le monde. Donc après, c'est à nous, et c'est pour ça que je voulais, j'espère que je l'ai démontré ce soir, vous montrer que l'œuvre de Tardy, souvent il y a beaucoup d'enseignants par exemple en collège qui l'utilisent, mais de façon illustrative. Et pas distancié. C'est un petit peu gênant parce qu'il y a tout un contexte qui s'inscrit autour et qui permet de, voilà, d'éclairer la démarche de l'auteur. Et ça s'inscrit vraiment dans une mémoire aussi, une représentation. Vous avez des questions, c'est bien que vous soyez venus. Ils m'ont en cours toute la journée, ils veulent quand même écouter le soir. Hein. Je vais partir mon chapeau. Vous n'avez pas de questions? Vous avez un tour de bien, sinon tu vas donner un boulot. Il y a du Motobix, hein, dont on parlait tout à l'heure, qui est médiatisé dans la bande dessinée. Voilà, les cratères sont repris dans une gymnase par exemple.
Est-ce qu'il s'est confronté à la vie avec...
Je sens la question piège.
Est-ce que tu l'as vu ou est-ce qu'il se confronte aussi aux jeunes? Comment il réagit?
Le seul moment Tardy est un peu. Il n'a pas trop les festivals de BD, mais il en a fait quelques-uns. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il pensait que dans ses premiers albums, voilà, ça n'intéresserait pas grand monde, ce sujet-là. Et finalement, il a rencontré pas mal d'adolescents qui sont venus dans les salons se faire dédicacer les albums et qui lui ont posé plein de questions et qui étaient intéressés justement par la guerre de 14 et qui ne trouvaient pas forcément les réponses dans. Les livres d'histoire n'étaient pas vraiment accessibles pour les adolescents, mais dans leur manuel scolaire, dans des choses comme ça. Donc le travail de Tardy a permis de combler peut-être, selon lui, un certain manque pour certains adolescents.
Oui, d'accord, il s'est confronté à. Il y a pas mal de jeunes à venir en Égypte.
Et il sent la responsabilité qu'il a de incluse quand même certaines représentations pour un bon moment.
Oui et non, je dirais. Il sait que. Maintenant, il sait qu'il est. Il est très. Comment dire? Il est très. Très marqué idéologiquement, donc. Il a vraiment des œillères quand on essaie de discuter avec lui sur certaines choses et qu'on essaye d'aller peut-être un peu plus loin, de lui dire ben, pourquoi, voilà, on n'essaie pas de montrer la diversité des attitudes des soldats, parce que tous les soldats n'ont pas réagi de la même façon. Non, on dit ça. Voilà, c'est pour des principes de simplification peut-être narrative. Et puis, à la fois, quand on lui pose la question, et c'est intéressant, de savoir qu'est-ce qui. Voilà. Est-ce qu'il assume cette idée de référence dans le monde de la bande dessinée déjà sur 14-18? Est-ce qu'il trouve bien que plein de jeunes auteurs traitent du sujet maintenant? Il va dire oui, mais en même temps, il va dire que leurs BD ne sont pas bonnes. Donc voilà, il va dire oui, c'est bien, mais bon. Anecdote, par exemple, qui va illustrer ça, c'est que pour, je ne sais pas si j'en ai un là, je crois que j'ai un. Le catalogue de l'exposition, c'est un dessin de David Bay, la couverture. Donc un auteur qui, de façon onirique, a travaillé sur 14-18. Tardy a été vexé que ce soit pas lui en couverture. Il a fait, voilà, il a appelé le directeur de l'historial, et il a dit, voilà, je ne comprends pas, pourquoi vous avez mis David Bay, ça n'arrive à rien, c'est vous dire complètement fantasmé. Donc, en même temps, il y en a qui traitent, qui trouvent ça bien, mais en même temps, si c'est pas lui qui est mis en avant, c'est, voilà. C'est,
Il n'assume pas qu'il construit une image.
Non, je crois pas. Voilà, pour lui, c'est la vérité ce qu'il raconte. Ça se passe comme ça. Il se dit pas historien en même temps parce qu'il se protège, parce qu'il y a eu vraiment des débats vraiment bleus, très très très, très tendus avec certains historiens. Il était invité à des tables rondes ou à la radio, à France Culture, etc. Et puis, il s'est fait tailler des shirts, excusez-moi l'expression, parfois par les historiens. Donc, voilà, c'était pas agréable pour lui. Mais en même temps, du coup, il disait, voilà, moi, je suis pas historien.
Mais il revendique beaucoup la mémoire populaire.
Oui, quelque part. Et comme étant, finalement, si on va un peu plus loin, presque étant la mémoire de la guerre. Alors que c'est une mémoire.
Et le fantasme aussi.
Oui, tout à fait.
Au sujet de la mémoire, là, donc là c'est la bande dessinée. Donc peut-être que la bande dessinée est un peu marginale dans l'ensemble de la population, dans l'ensemble de ceux qui veulent des sources mémorielles. Le cinéma, qui était disons, déjà lancé en 14-18, moi j'ai discuté avec des historiens, il paraît que le cinéma a été tout indiqué pour faire passer le message mémoriel. Mais ce qui paraît, je ne sais pas si vous êtes au courant, que la grande majorité des films qu'on montrait à l'époque étaient des reproductions en fait, des images montées. Ce n'étaient pas des faits véridiques. On voyait des images de temps en temps véridiques, mais de loin. Mais les images de près étaient disons, montées, c'était des montages.
Oui, des scènes d'assaut par exemple qui n'ont pas été prises. Des scènes d'assaut qui n'ont pas été prises sur le vif, mais qui ont été montées à l'arrière ou quelque chose comme ça.
Et donc, lui, il montre très bien les massacres, c'est-à-dire il était amené sur les cadavres, tout ça. Mais dans les films de l'époque, c'est vrai qu'on ne voit pas ces images-là, ou très, très peu. Il faut attendre peut-être le film de Croix de Bois, 1921. Et qui a laissé une image forte, moi je me rappelle le projet de Bois, ça a été un film qui était très très émouvant. On voyait la douleur, la souffrance des soldats dans les tranchées, même si c'était un film, c'était bien rendu. Alors que, du point de vue de réalité, effectivement, les images d'actualité de l'époque, évidemment, en fait, c'est fabriqué. La grande majorité des images de l'époque, c'est fabriqué. Donc, mais, du point de vue mémoriel, ça montre mieux l'impact, ça a peut-être très peu d'impact par rapport au cinéma qui était en plein boom. Et
j'aurais deux remarques par rapport à votre intervention. La première, c'est Laurent Verret, qui a beaucoup travaillé sur le cinéma à la Grande Guerre. Donc là, c'est une référence, si vous voulez approfondir ce sujet, que je connais un petit peu moins. Mais c'est vrai que ça a été monté. Et l'autre chose, notre réflexion sur le cinéma, c'est que l'œuvre de Tardy influence les cinéastes aussi. Par exemple, Jean-Pierre Jeunet, dans Un long dimanche de fiançailles, s'est nourri des images de Tardy. Donc ça veut dire que Tardy, quelque part, il, dans la mémoire populaire, dans les mentalités collectives, voilà, il est là. D'ailleurs, il s'est fâché avec Jeunet à cause de ça. Parce qu'il n'a pas fait comme il voulait exactement. Mais par contre, il ne s'est pas fâché avec Besson pour Adèle, l'adaptation d'Adèle Mansec, parce que Besson a dit non. Je paye les droits, mais vous n'intervenez pas. Et Tardy n'a rien eu à dire sur le film d'Adèle.
Est-ce qu'il a rendu célèbre Tardy, c'est pas son travail sur la Grande Guerre, c'est Adèle Blanc-Sec.
Oui, Adèle Blanc-Sec d'ailleurs, j'en ai parlé un tout petit peu, mais il y a certains albums, notamment Le Secret de la Salamandre, où elle rencontre Adieu Brindavoine, et Adieu Brindavoine va ressusciter Adèle, parce que c'est la momie à cette époque-là, le 11 novembre d'ailleurs. Donc ça perdure, même dans Adèle. Oui, Adèle l'a lancé, mais l'album qui l'a fait connaître vraiment, qui au niveau à la fois artistique, public, c'était La Guerre des Tranchées, il y avait Adèle en parallèle bien sûr. Il faut savoir qu'avec C'était La Guerre des Tranchées, il a reçu le prix, l'équivalent du prix du Festival d'Angoulême en France et en Allemagne, au Festival allemand. Donc, là, pour lui, c'était une grande joie que l'ennemi héréditaire, finalement, de la France, lui décerne un prix pour une œuvre sur 14-18. Donc ça veut dire que l'aura de Tardy, il est presque même au-delà aussi des frontières de l'Hexagone. Parce que j'en parlerai peut-être un petit peu la semaine prochaine, mais les auteurs de bande dessinée allemands ont très peu traité ce sujet. Il n'y a que trois auteurs. J'ai pas le scoop là-dessus. En tout cas, il voulait s'attaquer à l'histoire de son père. C'est ce qu'il a dit. Alors, après, c'était un projet. Maintenant, je ne sais pas si ça va aboutir. Voilà, affaire à suivre. Déjà, vous avez un petit scoop. Hein. Mais bon, c'est comme il est. Alors, pour des petites anecdotes, on terminera là-dessus si vous voulez, s'il y a des questions, mais autrement, je vais répondre aux questions, pas de souci. Parfois, Tardy me disait, enfin Jean-Pierre Vernet plutôt, que Tardy dessine très très vite. Hein. Sur la planche que je vous ai montrée, la vignette avec le crayonné jusqu'à la mise en couleur, ça a duré près d'une heure et demie, peut-être deux heures maximum. Parfois, il va passer quatre jours sur un dessin, parce qu'il y a un détail qui ne vient pas. Parfois, ça peut être une semaine. Et, au grand dame de sa femme, parce qu'il ne mange plus, il est complètement niqué par ce problème de... Et ça peut lui arriver, ça. Alors parfois, quand je travaillais avec lui, il fallait que j'appelle toujours relativement en avance pour lui demander, voilà, est-ce que tu es disponible, est-ce qu'il va bien psychologiquement, parce que des fois, je dis non, là, on ne peut pas vous recevoir, parce que là, il est complètement énervé, ça ne va pas du tout, et il n'aura pas de temps à vous consacrer. Et parce qu'il y a la pression d'éditeur aussi derrière, Casterman, qui dit, voilà, il faut livrer au plan pour telle date, etc. Donc, mais voilà, c'est viscéral, hein, chez Tardy. Le premier contact que j'ai eu avec lui, les premiers mots qu'il m'a dit après bonjour, c'était j'ai la rage. J'ai la rage de la guerre. J'ai la rage. Donc voilà, c'est viscéral. Et tous ces intestins qu'on voit, finalement.
Par rapport aux universités, est-ce qu'il a été difficile pour ta thèse de trouver un directeur?
Pour ma thèse, je n'ai pas travaillé sur 14-18, donc ça a été plus facile.
Je croyais.
Non. Pour ma thèse, je travaillais sur les représentations d'Égypte ancienne.
Ah oui.
Comment on construit un imaginaire justement d'Égypte ancienne. Mais les problématiques, en tout cas méthodologiques, sont les mêmes. Et là, c'était assez simple de trouver un directeur, mais la posture était délicate, puisque un sujet de recherche sur la bande dessinée s'inscrit obligatoirement en histoire contemporaine, puisque l'objet du travail est une bande dessinée, donc c'est un objet contemporain. Or, si on veut parler d'une période comme l'Égypte ancienne, il faut aussi que dans le jury soit présent un égyptologue. Et les méthodes, les démarches ne sont pas tout à fait les mêmes. Il faut que l'égyptologue soit assez ouvert pour qu'on puisse travailler sur, dans le monde universitaire, la bande dessinée commence à gagner un petit peu sa lettre de noblesse, mais difficilement. Hein. C'est souvent, ça a souvent été le cas dans l'histoire, hein, un objet des intérêts. Tu travailles sur la bande dessinée, là, bon, c'est pas très sérieux, c'est ça. Voilà. Et j'espère que j'ai démontré le contraire. Voilà, je crois que...
Merci.